Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous avons commencé il y a deux dimanches en arrière concernant ce problème qu'Israël a eu dans le désert à la sortie d'Égypte. Ce problème de rébellion du peuple à l'égard de Moïse et de Aaron pour des revendications sordides d'ordre humain et non pas d'ordre spirituel. C'est ce qu'on appelle dans l'écriture la révolte de Corée, ou ce que j'ai nommé moi la contestation des ministères. Donc nous avons vu en premier temps que quelles étaient les origines et les causes de cette révolte. Brièvement, origine et cause, c'est Corée qui était un kéatite, qui était un lévite, qui aurait bien aimé avoir la souveraine sacrificature à la place de Aaron. Aaron, souverain sacrificateur, appelé de Dieu et établi par Dieu. Nul ne s'arroge l'honneur de servir Dieu s'il n'a pas été établi par Dieu. Et ça vaut pour tous les serviteurs, ça vaut pour tous les ministères, ça vaut pour tous les appels dans l'église du Seigneur. Si tu n'es pas été appelé à ce que le Seigneur voudrait te faire faire, ne le fais pas. Si tu n'as pas reçu l'appel dans ton cœur, ne le fais pas. Attends. Donc, origine et cause de la révolte, c'est donc cette ambition, cet orgueil. C'était pas suffisant ce qui était Coré dans l'administration de la louange et de l'adoration de Dieu dans le tabernacle. Il voulait encore plus. Il voulait la souveraine sacrificature qu'il enviait par rapport à Aaron. Et puis, l'autre côté, il y avait aussi un deuxième groupe de personnages. Vous savez, méfions-nous des gens hautement spirituels qui auraient tendance à détourner les autres. Nous avons vu Datam et Abiram. Et Abiram, c'est eux, ce sont d'autres motivations. Eux, c'est ils voulaient diriger le peuple à cause de la revendication qu'ils avaient, parce que leur père Ruben était le premier-né, et qu'en tant que premier-né de Jacob, il aurait eu la double part. Donc il disait, c'est à nous que revient le droit de diriger ce peuple et non pas à toi, Moïse. Je vous signale deux choses que Israël a semblé oublier. C'est que pendant le moment de la délivrance du peuple israélite de l'Égypte, au moment où ils étaient dans l'esclavage depuis plus de 400 ans, il y a quelque chose que Dieu avait dit à Moïse. Il y a dit ceci, tu seras comme ma bouche, comme la bouche de Dieu. Dieu ne dit pas ça à tout le monde. Et s'attaquer à ce monument qu'est Moïse, monument d'exemplarité, un homme que Dieu avait formé, vous savez, un véritable serviteur de Dieu est toujours formé dans l'épreuve, dans le temps de désert. 40 ans dans le désert, Moïse, hein, il est parti. 40 ans, c'est là où Dieu l'a formé. C'est dans le désert, là où tu as référence à rien du monde, que Dieu peut te parler et te former. C'est là où tu peux t'attendre de la part de Dieu à une formation du royaume sur ta vie. C'est là où tu n'as plus de référence au monde, parce que souvent dans l'église, on veut faire comme dans le monde, et on rentre dans l'église les méthodes du monde pour faire fonctionner l'église. C'est horrible, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais Dieu avait dit à Moïse, tu seras comme ma bouche, tu seras comme Dieu, il y a dit. Mais imaginez, comme Dieu, quel privilège. Et ces Rubénites veulent s'opposer à Moïse. Si tu t'opposes à Moïse, tu t'opposes à Dieu lui-même. Ils ont fait une grave erreur, qu'ils vont payer d'ailleurs très très cher. Alors les motivations de la révolte, bien sûr, c'est ces motivations-là, c'est ce que nous venons de voir. L'orgueil, la prétention, le surmoi qui agit... Bien souvent, on n'est pas content de ce que l'on a, on en veut plus. Mais ça, c'est dans le monde. Dans le royaume de Dieu, tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Si tu as reçu peu, c'est bien. Dieu te redemandera peu. Mais si tu as reçu beaucoup, Dieu te demandera beaucoup. Donc fais confiance au Seigneur. Vous savez, il y a des manifestations à Paris concernant le génocide arménien. Et ça me fait penser à Charles Aznavour. Aznavour, il avait à un moment donné de sa vie chanté une chanson qui avait beaucoup de succès. Cette chanson, c'était « Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en trois fois plus grand, mon nom s'est allé ». Eh bien, ça, c'est Corée. Et souvent, dans l'Église, ce sont des hommes ou des femmes qui voudraient bien avoir cette place pour que les yeux soient fixés sur eux. Alors, nous avons vu aussi ce qu'était l'appel au service. L'appel au service, on l'a vu rapidement, quand tu reçois un appel de Dieu, c'est quelque chose qui va être profondément ancré dans ton cœur. Et tu vas le voir, ça va produire quelque chose dans ta vie. Et tu vas voir que toute ta vie et ta marche avec le Seigneur, et elle est là pour te préparer à l'appel que Dieu t'a adressé. C'est pas parce que tu as des capacités intellectuelles ou théologiques, peu importe, que tu vas servir Dieu. C'est parce que Dieu t'a préparé à l'appel. Et l'école de Dieu n'est pas l'école des hommes. Ensuite, nous avons vu les arguments de la révolte. On ne peut pas se révolter contre Moïse et Aaron si on n'a pas entraîné derrière soi un certain nombre de personnages. Et ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait. Et pas n'importe qui, 250 hommes de renom dans le peuple. Ils ont entraîné derrière eux des princes des tribus, etc., pour s'élever, se soulever contre Moïse. Et puis dans les églises, on peut entraîner un certain nombre de personnes à se soulever contre les ministères établis. Ça arrive aussi. Mais voilà, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, aussi il le récoltera. C'est un principe. Il y a un principe dans l'Écriture, c'est ce que tu sèmes, tu récoltes. Eh bien, le semeur qui va semer dans son champ, il a espérance de récolter, n'est-ce pas? C'est une loi. Une loi terrestre, mais aussi c'est une loi spirituelle. Si tu sèmes dans le spirituel, tu vas récolter dans le spirituel. Si tu sèmes dans le naturel, tu récolteras dans le naturel. Si tu sèmes la colère, tu récoltes la colère. Si tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Si tu sèmes la joie, tu récoltes la joie. Ce sont des principes immuables du royaume de Dieu. Savez-vous qu'il y a des principes du royaume qui s'appliquent à la terre? Nous le voyons. Seulement, on est tant occupé à... Je ne sais pas comment Dieu nous voit en haut, mais comme des petites fourmis là qui savent faire. Je ne sais pas. Ça va de droite. Vous avez vu les fourmis? Elles vont de droite et de gauche. Et voilà, mais... Ça, c'est les hommes. Bien sûr, et les femmes. Je ne vous oublie pas, mes sœurs. Je ne vous oublie pas. Alors, les arguments de la révolte, c'est cela. On en a eu pour deux dimanches avec ce sujet-là. Maintenant, je veux en terminer. Parce que c'est le moment où on va voir que... je t'en prie, hein, mon frère, ma sœur, ne va pas t'opposer au Seigneur. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras certainement pas. Alors, quand Moïse entend cela, quelle va être la réaction de Moïse? Alors il y a deux solutions. Oh Moïse, il n'est pas un homme spirituel, il va dire, ce peuple, il commence à m'enquiquiner, excusez l'expression. J'en ai marre de ce peuple. Qu'est-ce que je me suis collé 1,8 million de personnes au basket pour les trimballer dans un désert, pour les amener dans une terre promise? Mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour faire cela? Hein, c'est bien ça, souvent on entend ça. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela? Ou alors, Moïse est vraiment un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Et quand il va entendre ces murmures, la première réaction de Moïse, c'était quoi, frères et sœurs? Il nous est dit que Moïse va tomber sur sa face, il va se mettre à terre devant l'Éternel, il va s'humilier. Nous voyons en Moïse une prise de position hautement spirituelle. Il va s'humilier pour ses frères. Église, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à t'humilier pour ton frère ou ta sœur? Non. Est-ce que tu es prêt à t'humilier pour ton frère ou ta sœur? Regardez, il se prosterne à terre. Pas une fois, il va se prosterner trois fois. Dans différentes circonstances, nous allons le voir se jeter dans la poussière en signe d'humilité devant Dieu, parce qu'il va être comme une espèce de médiateur avec Aaron entre Dieu et le peuple. N'est-ce pas aujourd'hui, frères et sœurs, dans le ciel, que nous avons un tel médiateur qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous? N'est-il pas dit dans l'Écriture que Jésus-Christ est Seigneur des vivants et des morts, afin qu'il domine sur toutes choses, parce qu'il est passé à la mort, par la mort, il est capable de ramener à la mort, de la mort à la vie, et parce qu'il est passé à la vie, il est capable de maintenir en vie ceux qui ont la vie. Il est médiateur auprès du Père, avocat. Il est même souverain, sacrificateur. Il a le titre qu'avait Aaron, mais non pas dans une sacrificature terrestre, mais dans une sacrificature céleste. Il est le Agadol Cohen, ou Cohen Agadol, ça veut dire le grand sacrificateur. Mais meilleur qu'Aaron. Parce que Aaron, lui, il était mortel. Il devait transmettre son sacerdoce. Christ ne l'a pas transmis, il est vivant pour l'éternité. Il est souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. C'est-à-dire que toute sa sacrificature, elle est d'ordre éternel. Il n'a pas besoin, comme Aaron, de faire des sacrifices chaque an pour le péché du peuple. Par un seul sacrifice, il amenait à la perfection ceux qui sont sanctifiés en lui. Tout est meilleur chez le Seigneur. Tout est meilleur. C'est pour ça que nous pouvons avoir confiance quand il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour toi et pour moi. Dans des moments de grande difficulté, dans les moments où notre faiblesse apparaît, dans les moments où nos doutes apparaissent, dans les moments des épreuves où notre humanité elle commence à trembler. Ne t'inquiète pas. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a dit. Le péché de ce Corée et de ses partisans réside en ce qu'ils recherchaient la dignité de la sacrificature pour leur exaltation charnel. Le discours était beau, mais le vrai but était de ravir à Aaron la gloire dont Dieu l'avait revêtu. Ce matin, je veux vous rappeler un principe. Écoutez bien, parce que ce principe est tellement important. On a fait de l'Église du Seigneur une caste religieuse. On a fait de l'Église du Seigneur une pyramide religieuse, auquel on a mis au sommet un homme qui s'appelle pape ou papa, peu importe. On a fait une pyramide religieuse, alors que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cela. Tous sont égaux. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous serviteurs les uns des autres. C'est pour ça que nous avons part à la sacrificature. Paul dit que nous servons le Seigneur dans la sacrificature de l'Évangile. Romains chapitre 15 et verset 16. Nous sommes des sacrificateurs qui exerçons notre sacrificature dans l'Évangile, à savoir que nous prêchons l'Évangile de la grâce du Seigneur, afin qu'un grand homme soit sauvé. Je ne dis pas qu'un grand homme vienne dans l'Église, je dis qu'un grand homme soit sauvé. Et si tu es sauvé, bien sûr, tu viendras à l'Église, c'est normal, c'est là où il y a la famille de Dieu. Tu ne peux pas être séparé d'une famille. Si tu dis que Dieu est ton père, mais où est ta famille? Si tu dis que Dieu est ton père, où est ta famille? Eh bien voilà. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Parce que l'Esprit de Dieu a fait de nous des frères et des sœurs en Christ. Parce qu'on a, on a plus cette vision étroite de gens religieux qui se présentent devant Dieu avec le poids de la tradition. On vient adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est qu'adorer Dieu en esprit, en vérité? Excusez-moi, ce matin, je ne m'adresse pas, je sais que vous connaissez les choses, mais je veux vous rappeler des points essentiels. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu d'un cœur pur. C'est avec ton cœur que tu adores Dieu, pas avec ta raison, pas avec ton intelligence, pas avec ta connaissance, pas avec ton intellectualisme, avec ton cœur. Ça change tout. Tu viens désormais plus poser tes fesses sur les chaises de l'église pour assister à une réunion. Tu viens pour adorer le Seigneur. Tu viens pour lui rendre gloire. Tu viens pour le bénir. Tu viens pour lui rappeler toutes les bontés qu'il a eues à ton égard. Tu viens pour lui rappeler combien sont grandes tes bontés et tes bienfaits, Seigneur. Je les mets tous devant moi. Je mets toutes ces choses devant moi. Et en les regardant, je t'adore. Tu m'as sauvé de la mort. Oui, tu m'as sauvé de la mort. C'est-à-dire que j'étais dans un cercueil. Non, je ne dis pas ça, moi. Je ne parle pas de ça. J'étais mort. Mort dans mon esprit. Quoique vivant. Ah oui, j'allais en vacances. Ah oui, j'allais manger une paella. Ah oui, je vivais, mais j'étais mort spirituellement. Je n'avais pas de communion avec Dieu. Il a fallu que Dieu vienne dans ma vie, me change, me transforme, me donne son esprit pour que je vise par l'esprit de Dieu. À ce moment-là, je deviens vivant en lui. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu va mettre en toi cet esprit de louange et d'adoration que tu ne peux pas fabriquer, qui vient d'en haut. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes une maison spirituelle, une sainte sacrificature, dit l'apôtre Pierre, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quels sont ces sacrifices spirituels? Désormais, nous n'offrons plus des animaux à sacrifier. Quels sont les sacrifices spirituels? C'est le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu prononces le nom du Seigneur, tu offres un sacrifice spirituel. Je te loue, mon Seigneur et mon Dieu. Je te bénis de tout mon cœur. Tu es en train de sacrifier la louange et l'adoration. Je te bénis parce que tu as gardé ma vie. Je te bénis parce que tu as sauvé ma famille. Je te bénis parce que tu veux faire des belles et grandes choses dans ce monde. Tu veux sortir tous les peuples des ténèbres pour les amener à ton admirable lumière. C'est ça, frères et sœurs. Écoutez, Jésus a banni la religion. Vous le savez, ça? Il a même condamné les gens religieux. Pas une condamnation à la manière de l'homme, mais il va leur dire la vérité. Tout système hiérarchique des églises tomberait s'il était reconnu que quiconque a l'esprit de Dieu est fondé à servir comme sacrificateur et que toute personne spirituelle est qualifiée pour le faire. Oui, mon frère, ma sœur, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es qualifié pour servir Dieu. Tu répètes avec moi? Je suis qualifié pour servir Dieu, parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et je ne peux pas servir Dieu si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu. Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est simplement par l'Esprit de Dieu que tu peux dire Abba, Père, que tu peux dire Dieu est mon Père. Et seulement par l'Esprit de Dieu. Et quand j'entends mon frère Didier qui dit dans ses prières, tu es, Jésus, tu es mon amour, alors je dis là, oui, il y a quelque chose. Là, il y a un reflet du cœur qui s'exprime. Tu es mon amour. Pourquoi? Parce que j'ai goûté à ton amour. Oui. Oui, c'est notre dignité à nous de servir Dieu et nous sommes une sacrificature. Et si, frères et sœurs, on appliquait ce que l'Écriture nous dit, on n'aurait pas à faire face à ces mouvements d'église avec des hiérarchies et des hiérarchies et des hiérarchies. Ça voudrait dire que la hiérarchie, c'est fini. Tout le monde est dans la même attitude d'aimer et de servir Dieu. Et tu ne regardes pas ton frère avec un air de supériorité. Ça veut dire que tu regardes ton frère comme étant supérieur à toi-même. Vous vous rendez compte? C'est pas différent ça, frères et sœurs? Les Corées ne veulent pas d'une sacrificature que confère seule la grâce de Dieu et qui est la dignité commune de tous les sanctifiés dans le Christ Jésus. Ils veulent une sacrificature qui les distingue des simples chrétiens et qui leur vaille aux yeux des hommes une renommée spéciale de sainteté. Frères et sœurs, non. Non, 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 non. Saint Georges Malevé, c'est pas ça, hein. C'est Georges tout court parmi ses frères. C'est pas Saint Théophile Gautier de La Plata. Non, c'est Théophile, le frère de tous les frères et sœurs. Chacun a sa place dans le corps et chaque membre a sa place là où Dieu l'a voulu pour que le corps qui est l'Église fonctionne de la manière la plus admirable qui soit. Et tous ces membres ont un honneur. Même les membres de déshonneur ont plus d'honneur que les membres d'honneur. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que tout le monde dans l'Église a le même honneur. Alors, arrêtons avec les super ministères. Hein. Arrêtons de se croire ce qu'on n'est pas. Et même si tu as reçu de Dieu un ministère, sois humble. Tiens-toi caché dans le Seigneur. Tiens-toi caché aux yeux de tes frères. Les motivations de chacun étaient bien différentes, mais la révolte contre Moïse était l'occasion d'atteindre ce but. Frères et sœurs, cette prédication à moi, ça me chamboule. Pourquoi ça me chamboule? Parce que au bout de tant et tant d'années de service du Seigneur, j'ai vu tant et tant de choses qui correspondent un peu à ces choses. Que je me dis, Seigneur, reviens vite. Parce qu'il y a une telle pagaille dans l'Église du Seigneur, mais ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et comme on aura à rendre compte chacun devant Dieu, alors... Vous comprenez qu'on a intérêt à faire les choses qui sont agréables à Dieu. Et les choses qui sont agréables à Dieu ne sont pas un fardeau pour nous. On les fait avec amour parce que les choses ne sont pas pénibles, au contraire. Datam et Abiram, eux, c'est un autre problème. Si Corée, c'était le problème de la sacrificature, eux, c'était tout à fait autre chose. C'était, ils voulaient avoir l'autorité sur le peuple. Mais quand Moïse va les appeler, quand Moïse va leur dire de venir le voir, et Datam et Abiram qui ont été convoqués, ils refusèrent d'obéir à l'injonction de Moïse. Non seulement ils se révoltent, mais encore, ils vont couper le pont que Moïse essaye d'établir pour dialoguer avec eux. Il est dit qu'ils refusèrent d'obéir, le verset 12 et 15. Ils refusèrent d'obéir. Et l'épître de Jude nous dit à un moment donné, dans l'épître de Jude, dans son verset 11, il va nous dire ceci, qu'ils méprisent la domination et injurient les dignités. Mon frère, ma sœur, quand tu t'opposes à un Moïse, ou que tu t'opposes à un Aaron, tu es en train de t'opposer à Dieu. Quand tu refuses d'obéir dans ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors tu juges que ce que Dieu te demande n'est pas ce que tu veux toi. Est-ce que Dieu veut le meilleur pour toi? Et pourquoi tu ne veux pas ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ben c'est tous tes projets, tous tes trucs, tous tes machins où tu dis, oh gars, je veux bien marcher avec toi, Dieu, hein. T'es drôlement sympa, mais surtout, ne viens pas trop interférer dans ma vie. Et c'est là que ça ne va pas. Parce que si tu ne laisses pas Dieu conduire ta vie, tu vas te trouver à un moment donné avec lui en opposition dans certaines choses. Et tu sais ce qui va se passer? Tu passeras par l'épreuve. L'épreuve, Dieu va la mettre devant toi. Non pas pour t'oppresser, non. Non. Il va te faire passer par l'épreuve, parce que l'épreuve par laquelle il va te passer, elle est pédagogique. Quand tu vas sortir de cette épreuve, non seulement tu vas comprendre par où tu es passé, mais je sais une chose, c'est que tu ne recommenceras pas deux fois la même bêtise. Je crois que c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit que toute épreuve, c'est Hébreux 12, toute épreuve sur le moment ne semble pas un sujet de joie, mais de tristesse, mais qu'elle produit chez ceux qui l'ont ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Voilà ce que produit l'épreuve, un fruit de paix et de justice. Quand tu sors de l'épreuve, tu as compris quelque chose, à moins que tu sois un mulet. Et ça, je ne crois pas que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu sois un mulet. Mais tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a fait passer là. Et tu vas comprendre qu'en passant par là, tu sais ce qui va se passer. Tu seras peut-être même à même, à un moment donné, de donner le conseil à celui ou à celle qui passe par la même épreuve que toi. Tu diras, tu sais mon frère, moi aussi je suis passé par là, et voilà, je te témoigne comment Dieu a fait avec moi. Et tu vas encourager l'autre à ne pas persévérer dans ses voies. Dieu veut le meilleur pour nous. Dites-le avec moi, Dieu veut le meilleur pour nous. Pour moi. Dis-le. Dieu veut le meilleur pour moi. Dis-le, Daniel, Dieu veut le meilleur pour moi. Dis-le. Et pour mon épouse, et pour mon fils. Il veut le meilleur pour moi. Il faut le suivre, il faut marcher avec lui. On marche avec lui. On ne peut pas avoir le meilleur de la part de Dieu si on n'a pas fait une rencontre avec le Seigneur. Il faut le rencontrer dans sa vie, et le fait de le rencontrer va changer la vie. Amen. Voilà. Alors, le jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire d'après vous? Paul va nous dire que ce que nous venons de voir là dans ces prédications précédentes, 1 Corinthiens 10, que ces exemples nous ont été donnés à nous qui arrivons à la fin des temps pour que ça nous serve à nous. Ça veut dire que ce type de révolte là qui a eu du temps de Corée, ça se reproduit à la fin des... Qu'est-ce que dit l'Écriture concernant l'Église du Seigneur? Et qu'est-ce que Jésus a dit concernant l'Église du Seigneur? Dans les derniers temps, qu'est-ce qui se passera? Comment sera la foi? elle se refroidira. Attention, quand on parle de froid qui se refroidit, on parle d'hommes et de femmes qui connaissent le Seigneur et qui marchent avec lui, plus ou moins. On ne parle pas du monde. Le monde ne veut pas de Dieu. Et quoique Dieu les appelle tous, pour l'instant, ils sont dans un état de refus. J'ai bon espoir que le Seigneur change leur cœur. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Parce que le désir de Jésus, c'est quoi ? Qu'est-ce que Jésus nous a dit ? Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Donc on a espérance que le Seigneur va faire une œuvre encore avant son retour, avant qu'il vienne chercher l'Église, qu'il va faire une œuvre de grâce. Je le crois. Moi, je le crois profondément dans mon cœur. Il faut que l'Évangile soit entendu de tous. Et c'est ce à quoi l'Église s'attache de faire, en envoyant des missionnaires, en envoyant en témoignant aux uns aux autres, comme nous faisons les uns et les autres. Le Seigneur permet que le témoignage de l'Évangile soit donné afin que le plus grand nombre puisse être touché par la parole du Seigneur. Tout à l'heure, nous disions que nous étions morts, quoique vivants. Ça veut dire que je peux être sur ma chaise et j'écoute et je suis mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut que je reçoive la vie. Maintenant, est-ce que toi, tu prends la décision de venir à Jésus ? Non, pas possible. Pourquoi ? Parce qu'un mort, il n'a pas de pouvoir décisionnaire. Il faut recevoir la vie avant. Si tu reçois la vie du Seigneur, alors oui, tu pourras te mettre en marche avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut que nous demandions l'Esprit de Dieu, qu'il faut que nous naissions de nouveau. Jésus l'a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. L'eau, c'est baptême. Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La vie qu'a l'enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en lui. C'est ça ta vie. C'est ça ma vie. C'est pas autre chose. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, il faut que tu reçois la vie nouvelle. Tu peux pas dire que tu connais Jésus parce que tu es dans une religion. Connaître Jésus, c'est le connaître intimement et personnellement. Moi, je connais des personnes ici, dans cette église, je les connais personnellement, je sais qui ils sont. Je les connais. Mais il y en a d'autres que je connais moins. Mais quand tu dis je connais quelqu'un, c'est que tu as un vécu avec cette personne, oui ou non ? Tu ne dis pas comme dans le midi, je te connais, hein, je t'ai vu une fois dans ma vie, ah ben je te connais, c'est un copain. Tiens, Didier, c'est un copain. Je l'ai vu une fois dans ma vie, je dis, tiens, mon copain. T'es pas un copain. T'es une connaissance. Donc, nous devons connaître le Seigneur d'une manière personnelle. Et à partir du moment où nous le connaissons personnellement, le Seigneur va faire en sorte que nous grandissions en lui dans la foi. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et c'est ce qui se passe en réalité. Et puis aussi, tu sais, ben, faut que tu reconnaisses que tu es un sacré pécheur, quoi. Que tu en as fait dans ta vie. Hein. Comme moi j'en ai fait, hein. Comme nous en avons tous fait. Et heureusement que Jésus est mort et a versé son sang à la croix pour nous laver de toutes nos pourritures. Sinon, qui pourrait tenir devant Dieu ? C'est pour ça qu'il est notre avocat auprès du Père. Écoute, viens ici, Didier. Viens là. Viens, Philippe. Ah, toi tu es un grand, grand pécheur. Toi tu es un avocat. Moi je suis le juge. Didier Perrier-Latour. Tu es né à la Guadeloupe, toi. Tu en as fait des choses dans ta jeunesse et dans ta vie. Hein? Ouh, qu'est-ce que je vois. Oh là là là. D'après ça, tu es condamné. T'en as trop fait. Ah mais attends, qu'est-ce qu'il fait ton avocat là-bas ? Il va t'aider ? Allez, avocat, aide-le. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme argument de la défense ? Tout a été payé. Comment ? Avec quoi ? Avec quoi ? Avec de l'argent ? Avec quoi ? Avec le sang. Donc tu vas dire au juge, attention. Non. C'est un truand, c'est vrai. Mais j'ai pris moi à la croix le péché de sa vie. Et moi, je le déclare innocent. Et moi, le juge dit, allez, va en paix. Tu es innocenté parce que quelqu'un a payé la dette pour toi. Amen. Allez, va en paix, mon frère. Voilà comment ça se passe. Parce que tu crois qu'il n'y a pas un livre en haut ? Il y a un livre en haut où tous nos actes sont passés et sont consignés dans ce livre. Et dès que tu arrives au Seigneur, la condamnation de ce livre, tous tes actes condamnables disparaissent. Parce que le sang de Jésus te lave de tout péché. On revient à Moïse et à Aaron. Attendez, vous allez voir que c'est pas une rigolade. Hein. C'est pas une rigolade. Croyez-vous que Dieu va laisser les choses en l'état ? Aujourd'hui, croyez-vous que Dieu va laisser les choses en l'état avec l'Église du Seigneur ? Moi, je ne crois rien du tout de tout ce qu'on peut dire. Ces doctrines qui disent « Mais Dieu est bon, on ira tous au paradis. Oh, » oh. Ça, c'est Paul Naref qui dit ça. Mais que dit l'Écriture ? Pour ceux qui auront refuser de croire au Fils unique de Dieu et à son œuvre de grâce et de miséricorde et son œuvre rédemptrice de Golgotha, où cloué entre ciel et terre, Christ pouvait dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce sont nos péchés et ce sont nos iniquités qu'il a portés sur la croix. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est le gage de notre paix. Nous devons venir à Jésus. Nous devons venir à lui. Quand une telle rébellion se déclare dans le peuple de Dieu, quand les ténèbres commencent à couvrir le peuple de Dieu, alors vous savez ce qui va se passer ? La gloire de Dieu va apparaître. Dieu ne laisse pas dans les ténèbres son peuple. Amen. Dieu va se manifester. Et il nous est dit qu'au moment où la révolte et la contestation a été la plus forte, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et alors, il va se passer quoi ? Que va-t-il se passer ? Il va y avoir un jugement de Dieu sur ce peuple. Peuple de rebelles, peuple qui a toujours contesté, peuple qui est capable de dire « Mais c'était en Égypte que coulait le lait et le miel, et non pas dans la terre promise. » C'était en Égypte qu'on était bien, là où on était en esclavage. Là où on mangeait des oignons, des melons et de la viande. Là où on était bien, mais du matin jusqu'au soir, on faisait des briques dans l'eau avec de la paille et de l'argile. Et du matin au soir, on faisait ça. Mais qu'est-ce qu'on était bien en esclavage ! Et comme il y a des gens qui sont bien dans le monde, esclaves du monde, esclaves de leurs passions, esclaves de leurs désirs, et qui disent, mais nous, on est bien là-dedans. C'est pour nous là où coule le lait, le miel. Alors que Jésus te dit, mais voilà le pays de la promesse, rentre-y. Je te conduis, viens. Parce que je vous signale, qu'en Égypte, il y a de grandes ténèbres. En Égypte, Satan, il a son royaume. Tu veux rester dans les ténèbres? Tu veux rester sous l'influence démoniaque de Satan qui te pousse à pécher dans tous les domaines de ta vie? Ou tu veux venir à la lumière et à la vraie liberté? Parce que je te signale que quand tu viens à Christ, et je vous rappelle ces choses, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il n'y a plus maintenant dans la nouvelle alliance avec le Seigneur? Il n'y a plus de culpabilité. Ta conscience ne t'accuse plus. Alors ces gens, ils ont péché avec leur bouche. Ils ont dit toutes sortes de mauvaises choses contre les serviteurs de Dieu. Ils ont mis dans leur bouche des paroles de prétention, des paroles d'orgueil, des paroles de révolte, des paroles d'insoumission. C'est par la bouche qu'ils ont péché et c'est par la bouche qu'ils périront. Et vous savez ce qui se passe? Dieu dit, fais sortir des tentes Corée, Datam et Abiram et toute leur famille. Et tout le monde se tient devant les tentes avec les enfants, etc. Et vous savez ce qui se passe? La terre s'ouvre en deux. Ils sont tous engloutis vivants. Ils ont péri par la bouche. Ils ont péché par la bouche. Ils périront par la bouche. La terre s'ouvre. Engloutis. Feu. Chiant. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le récoltera aussi. Et alors, il va se passer quelque chose. C'est que, avant que cela se fasse, Dieu va dire maintenant, puisque ils avaient la prétention de pouvoir rentrer dans ma présence dans le lieu très saint, ils voulaient avoir la souveraine sacrificature, tu vas aller faire se tenir ces 250 devant moi avec des encensoirs avec de l'encens dans les encensoirs et on verra, celui que j'aurai choisi, c'est celui que j'aurai établi et désigné. Frères et sœurs, ils ont cru tous qu'ils auraient pu rentrer avec leur encensoir dans le lieu saint. Seul une personne pouvait entrer. Aaron, le souverain sacrificateur. Ils étaient devenus fous. Ils pensaient qu'ils pouvaient. Mais non. Non, non, non. Dieu n'a pas permis. Toutes ces personnes avec leur encensoir. Ils ont ramassé les encensoirs par la suite, ils en ont fait des lames, et avec ces lames, ils les ont appliquées sur l'autel des parfums comme mémorial de la rébellion du peuple d'Israël. Est-ce que c'était suffisant que le jugement tombe? Certes oui, Dieu a jugé. Fais attention que tu sois sous le jugement de Dieu. Aujourd'hui, dans le système de la grâce, dis-toi une chose, mon frère, ma sœur, que la patience de Dieu à mon égard, à ton égard, c'est la source de ton salut. Fais attention, Dieu patiente, et Dieu patiente, Dieu patiente. Mais un jour, Dieu juge. Maintenant, ils ont disparu, engloutis, vivants. Ils ont disparu engloutis, vivants, nous dit l'Écriture. L'Éternel parla à Moïse, disant, dis à Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, qui relève les encensoirs du milieu de l'incendie, répandant le feu au loin, car ils sont sanctifiés. Les encensoirs de ceux-là qui ont péché contre leur propre âme, on en fera des lames aplaties pour emplaquer l'autel.
Et ça sera, verset 40, un mémorial pour les fils d'Israël. Et Dieu confirme qu'une seule personne est habilitée à entrer dans le lieu saint pour faire le service à l'intérieur du lieu saint, de s'occuper de la table de pleine proposition, de s'occuper de la menorah, du chandelier, de s'occuper de l'autel des parfums. C'est cet autel dont il est parlé là. Un seul, Aaron, le souverain sacrificateur, devra entrer le matin et le soir pour entretenir ses ustensiles du lieu saint. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le jugement est fait? Maintenant, Dieu doit confirmer à nouveau. Il doit confirmer, parce que ça ne suffit pas que le jugement soit tombé. Dieu va encore montrer que c'est bien Aaron qui l'a choisi. Il va dire ceci. Et vous trouvez ça dans le livre des Nombres, au chapitre 17. Il va dire ceci. L'Éternel parla à Moïse, versets 1 à 13, parle aux fils d'Israël et prend d'eux de leurs princes selon la maison de père, c'est-à-dire des 12 tribus d'Israël, une verge par maison de père, 12 verges. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et c'est des morceaux de bois mort ramassés dans le désert. 12 morceaux de bois mort qui allaient être donnés aux 12 princes des tribus d'Israël, sur lesquels chaque prince mettrait son nom et qui va être présenté devant l'Éternel, devant l'arche de l'Alliance, devant l'arche du témoignage. Qu'est-ce qu'on peut sortir de bois mort? Eh bien, Dieu peut sortir de la vie d'un morceau de bois mort. J'étais un morceau de bois mort et Dieu a sorti la vie de ma vie et il en a fait des fruits à la gloire de son nom. C'est ce que Dieu va faire. 12 bois ramassés dans le désert sur lequel on va mettre le nom de chaque tribu d'Israël. Et on va les présenter, nous est-il dit, devant le témoignage où moi je me rends compte avec vous. Il arrivera que la verge de l'homme que j'ai choisi bourgeonnera et je ferai cesser de devant moi les murmures des fils d'Israël par lesquels ils murmurent contre vous. Et un peu plus bas, le verset 8, il arriva le lendemain que Moïse entra dans la tente du témoignage et voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait bourgeonné et avait poussé des boutons et avait produit des fleurs et mûri des amandes. Une nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi un morceau de bois qui produit des amandes et des fleurs? Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi des amandes? Pourquoi pas des cerises? Pourquoi? Alors voilà la raison. Jérémie 1, versets 11 à 12. La parole de l'Éternel vint à moi disant, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je dis, « Je vois un bâton d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alléluia. Ça voulait dire qu'en mettant ce témoignage de cette verge qui avait fleuri avec des fleurs et des amandes, Dieu avait exécuté sa parole. Moïse porta toutes les verges devant l'Éternel à tous les fils d'Israël. Ils les virent et reprirent chacun sa verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage devant l'arche pour être gardé comme un signe aux fils de rébellion. Et tu feras cesser leur murmure de devant moi et ils ne mourront pas. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, frères et sœurs? De la manne et des tables de la loi, de la manne et quoi? Et la verge d'Aaron comme témoignage. La loi de Dieu. Le vase de manne qui est le symbole de la parole de Dieu et la verge d'Aaron qui est le symbole de la résurrection. Alléluia. Vous vous rappelez que quand Jésus a été transfiguré sur la montagne, Il s'est entretenu avec Moïse et Élie. Ils ont parlé de quoi? Eh bien, ils ont parlé de la mort du Seigneur. Et ils ont parlé de sa résurrection. Et ils ont parlé de son ascension avant que le Seigneur aille à la croix. Ils se sont entretenus de ces choses. Et quand le Seigneur va mettre en témoignage la verge d'Aaron avec les boutons et les amandes dans le tabernacle, il va faire une chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Il faut bien comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Ces trois éléments dans l'arche de l'Alliance étaient recouverts par un propitiatoire, un couvercle, qui était tout en or. Sur les extrémités de ce couvercle en or, il y avait deux anges, deux chérubins, qui avaient leur visage et leur regard posé sur l'arche. Et une fois par an, le sacrificateur souverain venait et badigeonnait le couvercle de l'arche avec du sang. Quel était donc ce symbolisme? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Du sang sur le couvercle, en dessous il y a la loi, en dessous il y a le vase de manne, et en dessous il y a la verge d'Aaron. Mais ça voulait dire, frères et sœurs, que la présence de Dieu voyait au travers du sang de Jésus, la loi que Jésus avait accomplie, la résurrection que Jésus allait accomplir, et la parole éternelle de Dieu qui était là. Tout ça couvert par le sang de Jésus. Vous croyez que la parole de Dieu, c'est un ramassis d'écritures humaines? La parole de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu aux hommes. C'est les hommes qui l'ont écrite? Ok. Mais est-ce que vous avez vu un livre comme celui-ci, qui du premier verset au dernier verset, il est une complète harmonie, écrit par des hommes différents, des bergers, des docteurs, des trucs, des machins, des rois, plusieurs types d'hommes ont écrit cette parole. Et pourtant, elle a une unité qu'aucun livre n'a. Aucun. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, cette parole est oui. Et amen. Paul disait, toute parole est inspirée de Dieu. Elle a le souffle divin en elle, parce que c'est inspiré par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et c'est ça la différence. C'est que c'est des hommes qui ont écrit, oui, mais inspiré par l'esprit de Dieu. Et ça change tout. Quel peuple! Franchement, le peuple de Dieu, c'est un peuple au front dur. Hein? Dur. Des fois, tu demandes s'il a compris quelque chose, le peuple de Dieu. Regardez, Nombre 17, versets 12 à 13. Et les fils d'Israël parlèrent à Moïse, disant, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'accroche en aucune manière du tabernacle de l'Éternel meurt. Faut-il donc que nous expirions tous? À nouveau, ils vont regimber, ils vont rien comprendre. Frères et sœurs, est-ce que nous avons compris beaucoup de choses? Est-ce que tu as compris pourquoi Jésus est venu à la croix? Pourquoi il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu as compris pourquoi il s'est offert sans ouvrir la bouche? Pourquoi il a accepté de mourir à ta place? Pourquoi il a été cloué entre ciel et terre? Pourquoi tu crois qu'il a été cloué sur une croix? D'après toi, pourquoi tu crois qu'elle a été clouée sur une croix? Parce que c'était le châtiment romain? Oui, d'accord, il crucifiait comme ça. Mais il y a un symbolisme extraordinaire. Jésus sur la croix fait le pont entre le ciel et la terre. Il nous est dit que, Paul nous dit ça dans les Colossiens, il est dit, il a fait la paix par le sang, la croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux.
Il a fait la paix par le sang de la croix. Il a réconcilié le ciel et la terre. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que la terre, c'est une terre de péché. C'est une terre de fornication. C'est une terre d'adultère. C'est une terre de vol, de rapine, de meurtre. Le sang des innocents écrit vengeance. Écoute-moi bien. Combien de millions d'avortements dans l'année sur la terre, d'enfants tués, massacrés dans le sein de la mère. Et tu crois que Dieu va laisser impuni toutes ces choses? Combien, frères et sœurs, d'innocents qui meurent à cause de la folie des hommes? Et vous voyez, croyez que Dieu va laisser ces choses en l'état? Il nous est dit que dans le psaume que Dieu recherche sur la terre le sang des innocents. Dieu s'en souvient. Il y aura certainement de la part de Dieu un jugement qui sera juste. Alors nous qui arrivons à la fin des temps, Paul dit que cela nous serve d'exemple à nous. Attention à la révolte, attention à la rébellion, attention à l'insoumission, attention à la convoitise de la sacrificature de l'autre. Attention au ministère qui a été établi par Dieu. N'allons pas contester avec. Moïse, il a fait des erreurs, mais il était l'homme agréé de Dieu. Aaron a fait des erreurs, mais il était l'homme agréé de Dieu. Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Voilà la leçon que nous devons tirer de cette révolte de Corée, cette rébellion qui était dans le peuple de Dieu. Ne dis surtout pas, je suis sorti de l'Égypte, mais je voudrais bien retourner en Égypte. Ne dis pas ça, parce que tu es sorti des ténèbres pour retourner aux ténèbres. Non, tu es sorti des ténèbres pour aller à la lumière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Qui nous a transportés, qui nous a arrachés aux ténèbres. Venir à Dieu est un combat. Tu crois que le diable va te laisser comme ça? Tu lui as donné l'occasion dans ta vie. Sous différentes formes, tu n'as même pas été conscient que tu lui donnais ce droit dans ta vie. Mais lui, il t'a piégé. Alors que Christ, il te libère. Il te libère. Pour amener à Christ, c'est un combat. C'est un combat. Le diable, selon ce que tu as fait en pratiquant dans les ténèbres, il te lâchera pas comme ça. Tu es sa propriété. Il faut toute la puissance du Seigneur pour t'arracher à ces choses. Ne crois pas que c'est facile, que tu vas venir et puis tu vas être là et tu vas dire ça y est, j'ai au Seigneur. Non, 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 tu auras des combats dans tes pensées. Tu encore combattras dans tes pensées. Parce que le diable, il viendra t'insuffler les choses. C'est pour ça que l'Écriture est claire. Si tu viens à Jésus, débarrasse-toi de ta vie ancienne. Confesse-la, hein. Ne la garde pas pour toi. Continue pas à la porter parce que tu as un droit à l'ennemi sur ta vie. Mais est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est beaucoup de chrétiens sont dans cet état-là. Ils sont pas heureux parce que ils ont pas mis vraiment leur vie en règle. En ne laissant pas nos vies en règle, nous donnons des droits, et l'ennemi a des droits sur nous encore. Nous devons le priver de ses droits. En faisant quoi? Bien en confessant nos vies, quoi. Ainsi, nous serons libres. Amen. Nous serons libres. Vous, moi, le peuple de Dieu peut être libre. S'il marche selon les commandements de Dieu. Et voilà en quoi l'amour de Dieu est manifesté. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais si vous ne voulez pas garder les commandements du Seigneur et faire ce que vous avez envie de faire, alors vous êtes responsable de votre manière de faire. Et je vais te dire, personne n'est responsable à ta place. Tu es responsable de ta vie, devant Dieu. Et tu ne pourras pas dire, mais je ne savais pas. Tu as bien entendu ce matin? T'as entendu? Est-ce que tu as des oreilles? Tu as vu quand tu entends la télévision, les informations, tu les entends bien. Hein? Ton oreille, elle est bien dressée là. Hein? Mais entendre la parole, c'est la laisser pénétrer dans son cœur et laisser l'Esprit de Dieu travailler ta vie pour que tu aies droit à la vraie vie. La vraie vie que Dieu veut donner à chacun de nous. Pour que nous marchions en nouveauté de vie avec lui, mais surtout en obéissant à ses commandements. Vous savez, le mot obéissance, il a une connotation d'obligation. Ça, c'est ce qu'on nous a appris dans le monde. Non, Jésus dit non, non, non. Vous, si vous aimez mes commandements, donc c'est que vous m'aimez. Et si vous m'aimez, ces commandements ne sont pas un fardeau pour vous à porter, parce que je vous ai donné l'Esprit Saint. C'est lui qui vous aidera à obéir à ses commandements. Ce n'est pas de votre propre volonté. Nous savons que notre volonté, elle est toujours assujettie à nos états d'âme. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net